et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, le portrait sulfureux et érotique d'un grand écrivain. Une BD sur la phobie scolaire, des nouvelles cruelles et le lien entre deux chanteurs cultes qui portent la langue française. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrad.
Gustave Flaubert est né il y a 200 ans. Cette année 2021, l'écrivain Régis Joffray analyse la dernière journée de l'écrivain sulfureux avec La liberté du romancier. Un récit étonnant qui évoque sa vie sombre et sexuelle. C'est une BD originale sur le thème de la phobie scolaire. Magali Le Huche confie à un moment douloureux de son adolescence et sa passion pour les Beatles qui lui a permis de surmonter cette maladie souvent honteuse. Nous serons avec le Belge Grégoire Paulet qui se lance quant à lui dans un recueil de nouvelles décalées et cruelles, mais toujours empreintes de justice. Et puis vous entendrez Maxime Le Forestier qui raconte son lien avec Georges Brassens avec un extrait en avant-première de son entretien réalisé pour la version télé de La librairie francophone, une confidence intime pleine de souvenirs. Et voici les libraires qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Bonjour Anne-Rosine Calabro.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la France, vous êtes libraire en Martinique, à Fort-de-France, dans la librairie Le Papillon Bleu. Il fait très beau, très chaud, la mer, tout va bien.
Oui, tout va bien. Et en plus,
résumé,
nous sommes ouverts malgré le confinement.
En plus.
Et oui. On a eu la chance.
Oui. Donc ça va, c'est positif. Merci d'être avec nous Anne. Katia Courtois est libraire au Canada, à Montréal, dans la librairie Le Port de Tête. Bonjour Katia.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien ?
Oui, un peu frais, mais ça va très bien.
En Belgique, c'est Nathalie Clairin, libraire à la Hulpe, dans la librairie de la Mazerine. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Et en Suisse, c'est le retour de Dominique Bressou, libraire à Boudry, dans la librairie Une Petite Prose. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
On commence tout de suite avec vous, car vous avez une anecdote personnelle de votre vie de libraire à nous raconter. C'est votre tour cette semaine.
Figurez-vous qu'il arrive que des clients demandent des livres, on va dire un peu osés, du genre Kamasutra en pop-up.
Oui, et alors ça c'est la Belgique qui nous a sorti ça, mais ça n'arrête pas de revenir. Hein. Oui,
voilà.
Ça a fait le tour, hein, c'est le cas de le dire, de la francophonie.
Le truc, c'est que plus le client est jeune et plus il est mal à l'aise. Et j'en ai eu un qui refusait de me dire son nom. Donc, commande classée sous X. Hein. Et je lui dis de repasser vers la fin de la semaine. Et quand il revient le chercher quelques temps après, pas de chance pour lui, une amie de sa mère était dans la librairie et l'a reconnue. Alors, pour l'anonymat, c'était fichu. Et je crois que je connais jusqu'au prénom de ses neveux.
Il avait commandé quel genre de livre, donc c'est ça, le Kamasutra ?
Il n'avait pas commandé le Kamasutra en pop-up, mais ça s'en approchait.
D'accord, on n'aura pas tous les détails. Comment s'appelle-t-il ?
Non,
je plaisante.
Je plaisante. Oh non, le pauvre.
Il se reconnaîtra. Merci pour cette histoire, merci à toutes les quatre. Vous interviendrez bien sûr tout au long de cette émission. Et bonjour Magali Le Huche.
Bonjour.
Ce petit cadeau pour vous, avec ce titre des Beatles, extrait de l'album With the Beatles. C'est le deuxième du groupe daté de 1963. C'est un album que vous écoutiez. On va raconter tout ça parce que vous publiez une bande dessinée proche du roman graphique qui raconte votre phobie scolaire au collège et votre passion pour les Beatles. Vous les découvrez avec cet album alors que vous êtes en sixième en France.
Oui.
Et c'est votre sœur qui écoute ça ?
C'est ma sœur qui avait enregistré des cassettes comme on faisait à l'époque, qu'elle avait enregistré d'une cousine à nous, et elle avait With the Beatles et Sgt. Pepper. Et mes parents avaient acheté pour l'anniversaire de Sgt. Pepper, je crois, l'album. Donc c'était les deux seuls qu'on avait, With the Beatles et Sgt. Pepper.
Bon, très bon titre, hein, d'ailleurs, qu'on n'entend pas souvent, celui-ci, qui ouvre l'album.
Ouais,
alors vous êtes en sixième, Magali, et c'est l'angoisse, avec une prof de français très sévère, qui dit d'ailleurs à la fin de ses phrases, il y a bon banania. Qu'est-ce que c'est que cette
J'ai compris plus tard que c'était quand même un peu dingue de,
oui,
de dire
même,
ça.
Oui.
Mais ouais, elle disait ça quand on avait bon, quoi. Enfin, c'était... Mais ouais, elle était assez traumatisante, cette professeure de français qui devait prendre sa retraite l'année où je suis arrivée en sixième et qui finalement a quand même fait encore un an. Et voilà. Donc j'ai pas inventé, elle a vraiment existé, quoi.
Alors vous dessinez un tourbillon coloré à chaque fois que vous entendez les Beatles. C'est votre bouée, c'est votre réconfort, cette musique.
C'est vraiment un refuge, ouais. Je pense que j'ai trouvé refuge dans la musique, parce que avec les Beatles, j'ai découvert la musique. Et en plus, je pense qu'il y avait cet univers instrumental qui me permettait de m'échapper à l'école, la grammaire, aux mots, quoi, aux mots.
Ouais, ouais.
Et donc voilà, j'ai trouvé refuge avec la musique des Beatles.
Alors vous sombrez dans une angoisse terrible à l'idée d'aller au collège. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que quand vous partez le matin, vous dites avoir l'impression de laisser un peu de votre enfance à la maison.
C'est vraiment le sentiment que j'avais et dont je me souviens. Quelque chose qu'il faut quitter, quoi. Il y a un petit deuil à faire avec quand on grandit.
Mmh.
J'ai mis du temps, en fait, même à cette époque-là, à me rendre compte que ça n'allait pas. Parce que moi, je voulais y aller à l'école, je voulais être bonne élève. C'était peut-être d'ailleurs même le problème, c'est que je voulais être bonne élève et que du coup,
j'avais
oublié. Oui, dès
l'entrée en sixième, vous dites, il faut que j'assure.
Ouais, je pense que c'est même venu avant. Donc en fait, je me mettais la pression déjà depuis CM1, CM2 pour être bonne élève, alors que j'étais pas spécialement bonne élève, même j'étais voilà moyenne, quoi.
Mais alors pourquoi l'angoisse comme ça? Parce que vous retrouvez des copines, enfin, bon, c'est vrai que c'est un changement le passage en sixième au collège, mais à ce point-là.
Je pense que j'avais une pression que j'ai pas supportée. Je pense que j'ai aussi projeté sur l'école l'angoisse que j'avais de grandir.
Mais
moi, je voulais pas grandir.
Ouais.
J'avais peur de quitter l'enfance, quoi, vraiment. Mmh. Et donc, je voulais vraiment parler de ce passage en fait entre l'enfance et la préadolescence, où il y a pas de mots pour ça. C'est ce passage un peu bizarre. Et je me souviens me dire en octobre, peut-être au tout début de la sixième, me dire mais il y a quelques mois, il y a 4 mois, j'étais encore une enfant et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je suis.
Ouais.
Donc, nowhere girl, quoi.
Nowhere girl, en anglais, hein,
ouais.
Cela dit. Ce titre en anglais, franchement,
je
Magali.
Pas,
ouais. Mais bon,
ouais.
Hein, limite.
C'est vrai, mais bon, en même temps, c'était en référence à la chanson de John Lennon.
Oui, oui, c'est vrai. Bon, il y a un fond groupie hein, chez vous, vous le dites d'ailleurs, ça commence par le Père Noël.
Oui.
Et puis, quand vous réalisez que le Père Noël n'existe pas, vous vous rabattez sur Jésus.
Ouais.
Et vous dites, Jésus et moi, ça a duré 4 ans.
Ah non, mais vraiment.
Et vous idolâtré, hein, même physiquement, sur la croix.
Bah oui, il est à moitié nu, sublime. Comme ça, avec son petit drap. Enfin, forcément, moi,
c'est un blasphème, vous savez,
pour
les catholiques.
Je le trouvais extrêmement beau, je dois dire que... Et puis, en plus, il nous aime, quoi qu'on fasse, donc j'étais conquise, quoi.
Et puis après, il y a eu Christophe Lambert, plus accessible, MacGyver aussi, Jean-Marc Barr, Morten, du groupe AA, et puis les Beatles.
Oui.
Passion débordante qui déconcerte vos copines, parce que vos copines, elles ont une autre idole.
Bah ouais, c'est Patrick Bruel.
C'est Patrick Bruel, par exemple, oui.
Bah oui, j'avais un peu focalisé sur lui parce qu'on parlait de Bruel Mania à l'époque et ça m'énervait énormément parce que pour moi, c'était pas comparable, Bruel Mania, quoi. On comparait Patrick Bruel aux Beatles. De toute façon, on pouvait rien comparer aux Beatles parce que j'étais complètement...
Donc, casser la voix, c'est largement au-dessus des Beatles.
Bah... Arrêtez, hein.
J'ai un petit cadeau pour vous, Magali.
Je sens venir. C'est la voix. C'est la voix.
Vous voulez chanter avec
le
nous?
Le pauvre en plus, non mais je veux dire, c'est pas...
Casser la voix. C'est une chanson qui devrait plaire à Régis Geoffrey d'ailleurs. Pardon Régis, c'est...
Oui, non, j'aimais bien cette chanson, oui, tout à fait. Oui, je l'ai pas comparé aux Beatles, mais j'aime ça cette chanson, oui.
Alors vous dites, Patrick Bruel est devenu mon ennemi numéro 1.
Mais il faut quand même savoir que j'avais une peur terrible qu'on les oublie, les Beatles. J'avais peur qu'on les oublie, j'avais peur qu'on les aime plus. Donc dès qu'on parlait d'un phénomène musical, ça venait mettre en danger l'objet de mon...
On continue, on le passe en entier ou on arrête là, Magali?
Oh, je sais pas si ça vous fait plaisir. Maintenant, ça y est, j'ai travaillé sur
franchement,
moi.
Franchement, non. On salue Patrick Bruel, mais cette chanson, c'est pas possible. Allez, on coupe directement, on passe au libraire. Nathalie Clairin, elle a lu votre bande dessinée en Belgique. Nathalie, qu'en pensez-vous?
Oui, Emmanuel, eh bien écoutez, justesse, douceur. Moi, j'ai adoré cette bande dessinée. Alors, elle donne même de l'espoir par rapport au décrochage scolaire. J'ai eu directement beaucoup d'empathie pour cette jeune adolescente qui est tout à fait touchante de vérité. Alors, le texte, il est très bon, mais même sans lui, les dessins et les couleurs, ils sont éminemment expressifs. Donc, j'ai beaucoup aimé, par exemple, cette chevelure rousse qui, parfois, est le seul élément coloré de la page quand tout est gris.
Mmh. Allez, Katia Courto, au Canada, êtes-vous d'accord ?
Oh, écoutez, quel bonheur de lecture pour le cœur et les yeux. Découvrir votre personnage, votre histoire a été très touchant pour la libraire jeunesse que je suis, qui vous aime tant, Magali Leuch. Vous arrivez à nous la raconter avec beaucoup de finesse, grâce à vos mots sensibles, mais aussi à vos dessins extrêmement vivants. Et toujours, votre humour qui se pointe au détour, qui nous réjouit. Un tout grand merci.
Voilà, ah, vous avez séduit les libraires.
C'est gentil.
Bon, c'est vrai que c'est très bien dessiné. Il y a ces éclats de couleurs dès que vous faites intervenir les Beatles, hein, mm-hmm. qui sont là, comme ça, qui parsèment tout le récit. Alors, à l'école, Magali Leuch, c'est de pire en pire. Le fardeau est trop lourd à porter et vos parents vous emmènent chez une psychologue mm-hmm. qui diagnostique une phobie scolaire. Et c'est une vraie maladie, ça. Ça peut handicaper véritablement.
Ah oui. Ah bah alors, moi, ça m'a handicapé parce que j'avais des symptômes physiques. C'est vrai que sinon, je pense que j'aurais pas forcément alerté mes parents. Je ne savais pas comment dire mon mal-être. Donc, le fait que je ne mange plus, que j'avais vraiment du mal, j'avais vomissé. Oui. J'avais vraiment des troubles physiques, en fait.
Oui. Devant le collège, hein, on essaye de vous y emmener, vous vomissez à chaque fois.
J'étais vraiment mal physiquement, en fait. Donc, c'était aussi le signe que quelque chose n'allait pas. C'est tout l'intérêt des symptômes physiques, si on peut en trouver. Voilà. Donc, du coup, mes parents se sont inquiétés et on est allé voir cette psychologue. Et le fait de pouvoir mettre un mot, ça m'a donné une légitimité à ce mal-être. Parce que moi, je connaissais pas le mot phobie. Je trouvais que c'était bien, ça faisait un peu scientifique. comme mes parents, en plus, étaient des spécialistes. Oui, ils utilisaient beaucoup de mots que je comprenais pas. Et je trouvais que c'était mieux que dyslexie. C'était super. Et donc, du coup, je pouvais dire, j'ai arrêté d'aller à l'école, je fais l'école à la maison parce que j'ai une phobie scolaire. Et je trouvais que ça en jetait pas mal et que ça me donnait une légitimité.
Mais on se moque de vous quand même. Même un oncle de la famille qui vous appelle et qui vous dit, mais dis donc, ça fait 3 mois que t'es en vacances. Comment ça se passe, les vacances?
Mais ça, c'est vraiment arrivé. J'ai mis du temps à...
C'était dur,
violent,
ouais.
En fait. Parce qu'en plus, je m'étais vachement organisée. Moi, je voulais pas avoir de retard. Je voulais pas ne pas aller à l'école, en fait. Dans mon idée, en plus, le fait qu'on ait mis un mot, que c'était une phobie scolaire, dans mon idée, j'allais guérir et que j'allais retourner à l'école et que ça irait mieux. C'était méprisant, en fait.
Ouais.
Parce que je m'étais organisée pour faire l'école à la maison, quoi.
Ouais. Alors, ce qui vous aide, hein, c'est donc la musique, principalement les Beatles, dont vous savez tout. Oui. Et la preuve de votre bon goût arrive enfin lorsque, pour les 30 ans du groupe, leur titre « Love Me Do » ressort et figurez-vous qu'il devient numéro 1 au top 50. Vous saoulez tout le monde, hein, tout votre entourage avec les Beatles, Magali Leuch. Vous dites, à la fin de la sixième, je m'étais totalement replié sur moi. C'est-à-dire que c'est une bouée, cette musique-là, mais c'est un handicap aussi, cette passion. Vous avez réalisé que vous vous enfermiez dans un monde passé, dans un monde décalé?
Je l'ai réalisé après, un peu plus tard. En fait, j'avais certainement besoin de cet isolement pour passer le cap, en fait. Mais en effet, je me suis un peu auto-exclue. Parce que déjà, je pense que j'étais extrêmement pénible avec mes copines, intolérante à tous leurs goûts autres que les Beatles. Je supportais pas qu'elles les méprisent, qu'elles les aiment pas.
Ouais.
Et puis, j'étais honnêtement saoulante, quoi. Parce que je ne parlais que de ça. J'étais complètement obsédée par eux, quoi. C'était un peu ma raison de mon sentiment d'injustice, de mon mal-être, de tout. Enfin, j'avais tout projeté là-dessus pour aller mieux, quoi.
Ouais. Vous dites, d'ailleurs, vous êtes tellement isolée que vous êtes mise à avoir peur des autres.
Mmh. C'est un peu de la phobie sociale, hein, finalement. Mais
complètement,
ouais. C'est ça a découlé. La phobie scolaire, c'est un petit peu déplacé. Et je me rappelle avoir peur de passer devant des sorties de collège avec du monde. Et c'est là où je me suis dit, bon, il va falloir quand même aller mieux, quoi. Il va falloir que ça change. Je pense que petit à petit, les choses se font petit à petit, mais c'est comme ça aussi que ça a changé.
Pour savoir ce qui vous sauve, il faudra lire cette bande dessinée. Vous écoutez encore les Beatles aujourd'hui?
Bien sûr.
Bon, allez, un dernier pour la route. Voilà, on vous prend par la main, on a envie de vous tenir la main tout au long de l'album. Je trouvais que ça concluait parfaitement cet entretien.
C'est parfait, ouais.
Merci beaucoup Magali Lehuche. Merci. Merci. Nowhere Girl, donc, hein, est paru chez Dargo. Et qu'est-ce qu'on dirait pour un titre en français ?
La fille de nulle part.
C'est bien, ouais, ça, c'est la fille mal, de nulle part. Hein. Merci Magali. Merci à très bientôt. À suivre les nouvelles décalées, parfois cruelles, de Grégoire Paulet et les coups de gueule et coups de cœur des libraires. Avant cela, voici Benjamin Biolay avec sans doute le meilleur titre de son nouvel album. Mais ça, c'est subjectif. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde. Benjamin Biolay.
J'ai lâché le téléphone comme ça. En ce beau matin d'automne. Pas froid, ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Puis j'ai regardé le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas. Mais je savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta belle? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient. Le téléphone comme ça, je peux jurer avoir entendu le glas. J'aurais dû te libérer avant que tu me libères, moi. J'ai fait le bilan carbone trois fois, puis parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.
Titre de Benjamin Biolay, extrait de son nouvel album « Comment est ta peine ?»
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
Et bonjour Grégoire Paulet.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous Grégoire ?
Mais ça va très bien.
Depuis nos studios de Bruxelles, merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez Soucoupe volante aux éditions Gallimard, un recueil de nouvelles tantôt étranges, tantôt cruelles, mais toujours empreintes de justice. On est toujours rattrapé par la justice et par la morale, Grégoire ?
Ah, je n'avais pas du tout l'impression, mais j'imagine que chacun a sa lecture.
Ah ben moi je l'ai lu comme ça, figurez-vous. Parce qu'il y a ces histoires, avec notamment celle des voisins d'un comptable à la retraite, qui ont pour héritier des neveux qu'ils soupçonnent de vouloir provoquer leur mort pour hériter de leur fortune. Là encore, la juste morale l'emporte dans cette histoire.
Et c'est effectivement le voisin qui empoche le magot.
Oui. Ouais. Est-ce que c'est moral?
Ça, c'est une très bonne morale. Ah si, ça, c'est une très bonne morale. Surtout qu'en plus, l'histoire est directement inspirée de ce qui se passait chez mes voisins à moi.
Ah bon?
Donc, indirectement, c'était moi qui étais censé, symboliquement en tout cas, toucher le magot, ce qui malheureusement n'a pas eu lieu.
Ah oui, pourquoi ça n'a pas eu lieu?
Ouais, c'est un petit peu embarrassant si on m'entend, mais voilà.
Bah si, on vous entend là pour le coup.
Oui, non mais c'est parce que forcément, je racontais cette histoire qui était une histoire tout à fait vraie, c'est-à-dire que c'était une personne dont les héritiers essayaient de la tuer administrativement, voyez-vous, donc oui. C'est-à-dire de la rendre incapable de gérer sa fortune pour pouvoir en bénéficier plus tôt. Et cette histoire qui est proprement balzacienne, enfin il y a du père Goriot là-dedans, il y a quelque chose d'inhumain et qui est pourtant parfaitement légal, et en fait ces gens, cette vieille dame était ma propriétaire.
Et elle vous a proposé d'être l'héritier ou pas?
Ah non, pas du tout. Ça, non, ah. Ça, c'est simplement le fantasme de l'écrivain.
Ah, voilà. Bon, d'accord. Bon, il y a aussi ce personnage obèse, Trajan, qui est le souffre-douleur dans un supermarché où il travaille. Et vous évoquez comme ça le harcèlement quotidien auquel on est parfois confronté dans son travail et qui peut détruire une vie.
Oui, alors là, c'est vrai que vous avez raison. Là, pour le coup, il y a justice qui est faite. Puisqu'il veut se venger lui-même, et puis finalement, il se vengera pas, parce que sinon, ça aurait été terrible pour lui, finalement, de tuer quelqu'un. Il y a une sorte de justice naturelle qui intervient, une sorte de doigt de Dieu, comme ça, qui vient foudroyer le bourreau. Oui, oui, c'est vrai que c'est finalement assez cruel, et finalement, c'est vrai qu'il y a une forme de justice immanente qui vient violemment régler les comptes des laissés pour compte.
Ouais, alors c'est vrai qu'on voyage comme ça à travers le monde avec ces histoires, Grégoire. Paulet, vous situez ces récits dans des pays différents, dans votre Belgique natale bien sûr, mais aussi en Autriche, en Norvège ou en Slovaquie. Et puis il y a Jean-Paul qui décide de partir vivre dans une ferme en Serbie. Il se croit à l'écart du monde, mais la folie humaine est partout, on n'y échappe pas, quoi. Le fils du voisin est un peu barré parce qu'il croit voir des soucoupes volantes.
Alors il les voit, et c'est un petit peu le climax du recueil, je pense, ce passage, c'est-à-dire ouais. Que il voit les soucoupes volantes, il les appelle et il pense que c'est le salut du monde, et puis évidemment Jean-Paul, lui, il ne les voit pas, il pense que le gars est barré, mais quand sa fille à lui, qui est une fille qui habite aux États-Unis et qui est pétrie de tristesse, et qui en plus a perdu un enfant, enfin qui sait aussi quelles sont les profondeurs d'un cœur brisé, elle arrive, et en fait elle voit les soucoupes aussi. Et lui ne les voit toujours pas.
Mais alors c'est un peu ça le fond de l'histoire, Grégoire Paulet, en fait. C'est l'histoire du rationnel et du rêve. On choisit tous notre camp dans ces cas-là. Et une partie de vos personnages sont dans le rationnel, et l'autre partie est dans le rêve. Donc c'est un point de vue sur la vie, ça.
Absolument. Il y a quelqu'un me disait récemment que c'était un petit peu à l'image aussi de notre société d'aujourd'hui qui, à partir d'un même phénomène, vous voyez, avec toutes les théories qui circulent, à partir d'un même phénomène, peuvent avoir deux versions totalement opposées et inconciliables, voyant une même chose.
Bon allez, on va voir du côté de nos libraires qui ont lu ce recueil de nouvelles, Grégoire, avec la Suisse et le Canada. On va commencer avec la Suisse, tiens, Dominique Bressoux.
Oui, alors Monsieur Paulet, votre livre, moi je l'ai trouvé étourdissant. Entre la justice des caractères, le détail qui fait mouche à chaque fois, et la vraisemblance même de ce qui n'est a priori pas plausible, on y croit à chaque fois. Et j'ai pas pu m'empêcher de regretter que les lecteurs ne soient souvent pas très attirés par le genre des nouvelles, pourtant très riches. Et votre livre, c'est 17 histoires complètes d'une belle écriture, un pur bonheur.
Bien.
Je vous remercie.
Le Canada, Katia Courteau.
Que je suis d'accord avec Dominique. Je me suis régalée de chacune de vos histoires, Monsieur Paulet, aux univers si différents. Votre écriture est portée par un style savoureux où l'humour et une certaine légèreté côtoient, entre autres, les thèmes de la mort, l'identité et les travers de l'homme. Vous maniez la nuance avec beaucoup de subtilité et d'agilité. J'ai adoré.
Eh bien, voilà, Grégoire. Pas
merci
mal.
Beaucoup, merci.
Dans Les soucoupes volantes, votre nouveau livre, il y a cette nouvelle sur la rupture sentimentale. Avec un couple bien installé qui part au musée de Gand, ils vont passer la journée ensemble et lui va s'apercevoir qu'un drame profond habite sa compagne. Elle ne peut plus vivre sa vie dans ce bonheur apparent, il lui faut autre chose. À un moment, elle lui dira « Tu es toujours heureux, toi ». Mais ça sonne comme un reproche.
Je suis content que vous parliez de cette nouvelle-là parce que vous êtes le premier qui m'en parle. Comme si tout le monde était passé au-dessus, alors que moi, c'est celle qui me ressemble le plus ou qui me touche le plus.
Ah oui.
L'histoire d'un type qui n'est pas du tout moi en l'occurrence, puisque c'est un type riche et heureux et qui a une femme superbe et qui pourtant voit que tout se barre, tout s'en va.
Ouais.
Et il y a absolument rien à faire. Simplement, tout s'en va. Et ça commence, si je me souviens bien, par ce talon. Elle perd le talon de sa chaussure.
Oui. Et elle va s'acheter des sandales après. Voilà. Ils font les boutiques, ils ont l'air heureux tous les deux. Hein.
Mais oui, c'est ça, c'est tellement, ils sont tellement heureux. Alors pourquoi est-ce que ça peut pas marcher?
Mais ça arrive, ça, malheureusement. Ça arrive et c'est terrible de pas voir venir les choses. C'est ça le pire, en fait, dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, peu importe. C'est l'abandon qui est insurmontable dans ce cas-là, parce qu'on n'a pas vu venir les choses. C'est trop improbable, c'est trop brutal.
La seule consolation qu'on a devant des ruptures aussi inéluctables et aussi peu explicables, c'est de se dire qu'il y a des forces qui nous poussent, qui peut-être nous déchirent, mais au moins il y a des forces. Et ça, c'est déjà ça.
Quel genre de force ?
Bah, des forces justement que par la suite on est invité à essayer d'élucider ou à peut-être dompter.
Ouais, c'est-à-dire qu'on s'en sort quand même.
Ouais.
Ouais. Il y a ces deux amis aussi qui vont à la pêche et qui vont vivre eux aussi une rupture, d'abord un moment de frayeur avec les enfants de l'un des deux, et puis c'est un moment qui va les séparer sans qu'on sache vraiment pourquoi. Qu'est-ce qui se passe entre deux? Pourquoi ils ne se voient plus, ces deux amis?
C'est parce qu'en fait, c'est un terrible secret, en fait. Ce qui s'est passé sur l'île,
oui.
Je ne veux pas tout spoiler au lecteur.
Bon, sur une nouvelle, il y en a 17.
Ouais, d'accord. Bon, c'est un peu l'histoire de Caïn et Abel. C'est-à-dire qu'il y en a un à qui les choses réussissent, l'autre à qui les choses ne réussissent pas.
Ouais.
Et il y a un des deux qui meurt, mais il n'y a absolument aucun témoin, parce que c'est sur une île. Or, il y a quand même une forte suspicion pour le narrateur de la nouvelle, qui connaît l'histoire de Caïn et Abel. Et sans doute que le papa des deux enfants qui étaient avec lui dans la barque a dû imaginer la même chose. Mais comme il ne faut surtout pas le dire, ce silence est terrible, il ne faut surtout pas le dire, et du coup... Voilà, de nouveau, une force qui sépare les deux amis. Oui,
voilà. La fragilité de l'amitié, la fragilité d'un couple, de la famille, tout cela est aussi analysé l'air de rien dans ces nouvelles, Grégoire. On se retrouve face à soi-même dans la vie un peu trop souvent, peut-être.
Oui, moi je me suis certainement trouvé face à moi-même en écrivant parce que j'ai très peu prémédité ces nouvelles. J'ai écrit ça, j'oserais dire, le plus vite possible, sans aucune péjoration, sans aucun... le plus vite possible, justement, presque pour surprendre, disons, les thèmes inconscients, si vous voulez. Il y a quelque chose comme ça que la nouvelle permet, justement, grâce à sa brièveté. On peut y aller comme un fou, on peut y aller comme un amok de Stéphane Zweig, si vous voulez. On peut y aller tête baissée, en se disant après coup, on va voir ce qu'on a fait. Et donc, il y a beaucoup de thématiques là-dedans, notamment sur la solitude ou sur l'invisible, qui sont... Mais aussi, à mon avis, enfin ça, c'est quelque chose que... Moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à les écrire. Du coup, j'avais toujours l'impression que ces nouvelles étaient réjouissantes ou drôles. Ou qu'il y avait en tout cas quelque chose de gay.
Bah, pas toujours.
Oui, voilà. Je suis peut-être le seul à avoir trouvé ça vraiment drôle. Oui. Mais bon, en même temps, la cruauté, la drôlerie, c'est des choses qui vont ensemble.
Oui, ça peut s'associer. Bon, merci beaucoup, Grégoire Paulet. Merci à vous. Soucoupe volante est paru chez Gallimard. Merci d'être revenu dans la librairie francophone. À bientôt, Grégoire.
À bientôt, Emmanuel.
Allez, les coups de gueule et les coups de cœur des libraires.
La librairie francophone.
Cap sur Fort-de-France en Martinique avec Anne-Rosine Calabro et un coup de cœur pour la France.
Ah oui, un super coup de cœur pour un roman graphique adapté par Clémentine Fourcade, Renaud et Tom François, qui a été édité chez Calmann-Lévy Graphique. Ce coup de cœur s'appelle « Dans les pas du fils ». Le roman avait été préalablement écrit par Denis Labelle et paru chez Caro en 2016. Et c'est l'histoire vraie d'un père qui entreprend un voyage à cheval, mais complètement improbable, dans les steppes du Kirghizistan. avec son fils de 17 ans, qui est un ado complètement en rupture. Et pendant 3 mois, ils vont vivre des aventures qui recréeront le lien père-fils. C'est un livre avec une histoire très forte.
D'accord, c'est un roman graphique, hein, Dans les pas du fils, oui. Aux éditions Kalman Lévy Graphique. Merci beaucoup, Anne. Un coup de gueule dans le rayon jeunesse en Belgique, Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel. Concernant un défaut remarqué dans les albums pour la jeunesse et particulièrement pour les tout-petits qui ne sont pas encore en âge de lecture. Alors, le livre, il est beau, le thème, il est bien choisi, mais on en oublierait presque qu'il s'adresse à de très jeunes lecteurs. Donc, j'appelle aux éditeurs jeunesse afin qu'ils favorisent les formules adéquates avec des mots adaptés.
Oui, s'adapter au public, quoi, c'est ça?
Exactement.
Bien, c'est noté. Merci, Nathalie. Au Canada, un coup de cœur, Katia Courteau.
Oui, Emmanuel, un coup de cœur dans la section essais.
Oui.
Il s'agit de Prendre part, considération sur la démocratie et ses fins, de David Robichaud et Patrick Turmel, publié chez Atelier 10. Alors, un gros coup de cœur pour ce brillant essai qui nous amène, avec une grande accessibilité, à nous questionner sur la démocratie. Il nous rappelle, entre autres, qu'elle est à la fois théâtre d'une compétition et d'une coopération, nous interroge sur la légitimité de nos décisions, sur l'importance de conserver son sens critique et montre combien il est nécessaire que tous y prennent part. C'est très réussi.
Considération sur la démocratie et ses fins aux éditions Atelier 10. Merci Katia. Enfin, Dominique Bressou en Suisse s'est énervé, paraît-il. Un coup de gueule donc, Dominique.
Oui, moi, figurez-vous, j'ai souvent des grands-mamans qui viennent à la librairie et qui typiquement vont prendre comme cadeau un livre pour leur petit-fils et qui vont dire « Ah, et ma petite-fille, bon, ben, je lui prendrai une Barbie ». Et ça m'énerve parce que, paradoxalement, quand des enfants viennent à la librairie, l'intérêt des petites-filles est immédiatement éveillé, elles se précipitent sur les bouquins. Oui. Alors, s'il vous plaît, les livres sont pour tout le monde, la lecture très formatrice, c'est autant pour les filles que pour les garçons.
Bah oui, puis on peut offrir des poupées aux garçons, hein, comme ça, ça changera.
Absolument.
Allez, faites ce que vous voulez. Soyons libres. Merci beaucoup. Merci Dominique. Dans un instant, Maxime Le Forestier qui parle de Brassens et la vie sulfureuse de Flaubert avec Régis Jaufré qui lui aussi est sulfureux parfois. Ce sera après le nouveau titre du rappeur Youssoupha dans la librairie francophone.
On capte les nouveaux codes avant que ça se complique. Mes gars veulent nouvelles drogues et nouvelles combines. On passe du rêve au lampe, les coups sont permis. Soirée 6h du mat, horaire de Perkins. Wow, je suis à l'arrière, cigare et verre de whisky. Je repense aux banlieues que j'étais miskin. Il reste à que la daronne après le procès. Peut-être ma chérie pour croire en mes projets. Wow, je vais piloter le bolide le plus coté. Un sac de cash posé sur siège d'à côté. Rien à prouver, ça sert à rien les conflits. S'expliquer toute sa vie, mourir incompris. Oh. Neptune. Neptune. Ah. Neptune. Neptune. Diggity check le mic en effet comme personne ne l'a jamais fait. Par les primes, ce n'est pas un bluff et grandi loin de la tour Eiffel. Délinquant, c'est mauvais réflexe. Nouvelle France qui vous effraie, les chroniques que l'on défraie. Nos victoires seront vos défaites. Yo, je rappe par mes gardes, des météores de Pégase. Bientôt faudra que je m'écarte parce que Malik me regarde. Hein, mes ambitions du bled, si c'était à refaire. Je veux finir millionnaire comme la chatte à la Lagerfeld. Ok, maman est seule pour me bercer, j'avais pas de persévérer. Certains ont rêvé de percer, mais moi j'ai persévéré. Si le paradis existe vraiment, je veux le voir aussi. L'idée reste de mourir jeune, mais le plus tard possible. L'irriciste bon tout. Neptune. Yeah, 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 yeah. On m'a questionné, mais je dis pas un mot. On m'a pressionné, donc je suis parano. Guinée-Conakry, Guinée-Conakry. La belle vie belle comme une femme de Guinée-Conakry. Ambition blédard, j'ai le droit de parader. Donne-moi mes dollars, arrête de bavarder. Que j'aille me balader, que j'aille me balader. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste comme Dico baladé. Guinée-Conakry, Guinée-Conakry. La belle vie belle comme une femme de Guinée-Conakry.
Youssoupha avec son titre Ambition Guinée-Conakry.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
Ici Radio-Canada première.
RTBF la première.
France Inter.
Le chanteur Maxime Le Forestier publie un livre confidence sur son lien à Georges Brassens au moment où on célèbre cette année le double anniversaire de sa naissance et de sa mort. Maxime Le Forestier sera dans la version télé de la librairie francophone sur RTS2 en Suisse et ici RTV au Canada ce lundi 26 avril en deuxième partie de soirée, sur RTBF La 3 en Belgique mercredi 28 avril et sur TV5 Monde dimanche 2 mai en France, Suisse et Belgique dans une semaine à midi. Et ensuite sur tout le réseau mondial de TV5. Voici pour vous et pour la radio un extrait en avant-première. Bonjour Maxime Le Forestier.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans la librairie francophone. Vous publiez ce livre, Brassens et moi, aux éditions Stock, un livre en deux parties. Vous racontez tout d'abord votre rencontre et votre lien avec lui, puis comment vous vous êtes donné pour mission de perpétuer son œuvre sur scène grâce au recueil de toutes ses chansons que vous donne un jour son ancien ami et bras droit. Votre premier vrai contact avec lui, c'est lorsque vous lui conseillez des cordes pour sa guitare. Vous avez repéré, vous, des cordes qui rouillent moins vite que les autres. Et vous lui dites, bah tiens, il y a ces cordes-là. Qu'en pensez-vous ?
C'est le premier contact avec l'homme.
Oui,
avant,
c'est ça.
J'avais eu un contact des années avant avec l'œuvre.
À l'âge de 14 ans, parce que vous allez acheter une guitare dans un magasin et on vous donne les partitions.
C'est ça. Et donc la première fois que j'ai eu contact avec l'homme, c'était à Bobino. En effet, il changeait ses cordes tous les jours parce qu'il transpirait beaucoup, donc les cordes rouillaient. Et j'avais trouvé une marque de cordes américaine qui rouillait moins vite et qui se stabilisait surtout plus vite. Donc je me suis fait traiter de petit con.
Oui, c'est ça. Il vous dit, petit con, tu vas pas m'apprendre mon métier.
C'est ça, mais ça a brisé la glace.
À partir de là, il vous prend en affection, on peut dire ça, parce que il va jusqu'à chanter sur scène un titre qu'il ne voulait pas chanter. Il y a cette chanson, Celui qui a mal tourné.
Oui.
Que vous connaissez, qu'on va écouter, tiens.
Les temps et les temps, je ne m'étais pas servi de mes dents. Je
vous la connaissez par cœur.
Pas de vin dans mon lit, ni de charbon dans mon fourneau. Tous les croque-morts silencieux me dévoraient déjà des yeux.
Alors vous dites qu'il ne faut pas interrompre une chanson de Brassens, il faut l'écouter jusqu'au bout. Là on est obligé de l'arrêter, mais vous dites qu'il dira au public, cette chanson-là, je la chante pour Maxime. C'était magnifique ça pour vous.
Bah oui, je lui avais demandé, mais pourquoi elle est pas... C'était ma chanson préférée à l'époque.
Oui.
Maintenant j'ai plus de chanson préférée de Brassens, je suis incapable de répondre à cette question. Et je lui dis, mais pourquoi elle est pas autour de chant? Il m'a répondu, parce qu'elle n'a pas marché.
Ouais.
Et pour moi, c'était invraisemblable, puisque c'était, il n'y avait pas d'hierarchie dans cette œuvre.
Ouais.
Et puis finalement, le dernier jour, il l'a chanté en me citant. Et c'était d'autant plus émouvant que il ne parlait jamais sur scène. Mmh. Comme peu de gens à l'époque, Brel non plus ne parlait pas. Piaf disait juste les noms des auteurs et compositeurs. Et ça m'a touché au cœur.
Ouais. C'était un gars sympathique ou pas?
Ah ouais.
Ouais.
C'était un homme.
Mais vous dites ça parce que vous l'aimiez ou vraiment on peut dire que Brassens c'était un homme généreux.
Les gens qui l'ont approché disent la même chose. Il était chaleureux, sympathique, bienveillant. C'était quelqu'un de bien.
Alors à sa mort, vous êtes en concert à Bobino, Maxime Le Forestier. Tout le monde veut évidemment votre réaction. Vous êtes dans quel état avant de monter sur scène? Vous vous souvenez de ce moment-là?
Je suis mal.
Ouais.
Je suis très mal. Puis je voulais pas parler de lui à la télé, etc. Ça m'aurait semblé indécent. Donc j'ai pas reçu les journalistes qui étaient là.
Mais vous avez chanté sur scène.
Et j'ai chanté sur scène dans l'eau de la Clairefontaine et j'ai à peine réussi à la finir tellement j'étais ému.
À 14 ans, j'avais découvert l'œuvre. À 23 ans, rencontré l'homme. Et à 32, je l'avais perdu. Alors Maxime, quand son bras droit, donc le fameux Gibraltar, vous donne un livre où il y a toutes les chansons de Brassens, une mine d'or, dont certaines n'ont jamais été enregistrées, figurez-vous, vous décidez de vous lancer dans une tournée avec les chansons de Brassens. Et vous inventez un petit jeu avec le public qui marche tellement bien que vous allez faire le tour de la francophonie avec cette tournée.
Oui, c'était un jeu, comme je n'arrivais pas à choisir parmi les 171 chansons que je savais chanter, Et en même temps, demander aux gens quel titre ils voulaient entendre, j'aurais eu toujours les mêmes, les plus connus, les copains d'abord, les passantes,
Donc vous avez numéroté toutes les chansons.
J'avais numéroté les chansons, les gens disaient 22, et je cherchais 22.
Sans savoir.
Je chantais 22 sans savoir. Ce qui m'a permis quand même de leur faire découvrir des oui. chansons qu'ils ne connaissaient pas.
Oui.
La librairie francophone.
L'entretien intégral de Maxime Le Forestier à écouter et à voir donc dans la version télé de la librairie francophone. À partir de lundi, sur les chaînes de télévision francophone, nous serons aussi avec Angélique Kidjo, l'haïtien Némi Pierre Dahomé, la libanaise Lamia Ziadé. Toutes les infos sur notre site internet et sur mon compte Facebook.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Régis Geoffrey, bonjour, rebonjour.
Rebonjour.
Rebonjour. Vous publiez Le Dernier Bain de Gustave Flaubert aux éditions du Seuil. Vous racontez avec la liberté du romancier le dernier jour de Flaubert. Dans son bain, avant sa mort, alors qu'il fait le bilan de sa vie et de ses amours bisexuels, il est en confrontation avec les personnages de ses romans, dont la fameuse Emma Bovary. Qu'aimez-vous chez Flaubert, vous ?
Oh, Flaubert, si vous voulez, bah, c'est une grande, alors, ça va être une grande histoire entre Flaubert et moi, au sens où c'est le, dans la mesure où c'est le, l'écrivain qui m'a le plus influencé peut-être dans ma façon d'écrire, parce que j'avais découvert la correspondance de Flaubert quand j'avais 18 ans et singulièrement le début de sa correspondance, où justement le sujet principal, c'est pas tellement la sexualité, contrairement à ce qu'on pourrait croire pour un être jeune, c'est l'écriture. Ouais, qu'est-ce que ouais. l'écriture et qu'est-ce qu'il va écrire et comment.
Et pourtant, Madame Bovary en a traumatisé pas mal des collégiens. Certains ont été dégoûtés de la lecture par Flaubert. Vous leur répondez quoi à ces gamins et ces jeunes qui...
Moi, j'ai pas été dégoûté parce qu'on ne l'a pas fait lire.
Ah, vous ne l'avez pas fait lire.
Oui, non, je fais confiance à l'époque. En tout cas, souvent, on pouvait nous dégoûter. Par exemple, moi, j'avais été un peu dégoûté de la poésie parce qu'à l'époque, on expliquait tout le mot. Je m'en rappelle souvent pour s'amuser les hommes d'équipage. Il y avait une explication déjà sur souvent, sur les hommes, les hommes d'équipage. Équipage, etc. Mmh. Mais non, Flaubert, non.
M'a Vous avez choisi Flaubert.
Oui, on ouais. m'a jamais dégoûté. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir d'avoir choisi justement Madame Bovary dans une librairie. Je vais avoir 16 ans, mais c'était pas une lecture qu'on m'avait imposée, absolument pas.
Alors Flaubert, dont le seul combat a été, d'après vous, la conquête du style en littérature. Et lors du procès qu'il vit à la sortie de Madame Bovary, justement, on lui reproche ce style détaillé, qui fait tout pour rendre crédible son histoire et son scandale aussi immoral et obscène pour l'époque avec cette femme infidèle.
Oui, en réalité, ce qui est très drôle, c'est de voir qu'on lui reproche d'une certaine façon son style.
Ouais.
Son style et cette façon de ne pas juger les personnages. C'est-à-dire qu'on lui on ne lui reproche pas de vanter la débauche, on lui reproche de la montrer sans la juger, en fait.
C'est ça, de laisser faire, en fait. Voilà. De laisser
la
juger le lecteur.
Vu
oui, à l'époque. Oui. Alors, il sera acquitté par Napoléon III, qui interviendra à la demande du frère de Flaubert, afin de préserver la famille.
Comment vous... Là, vous vous avancez beaucoup.
Oui, je fais un raccourci.
Oui, vous faites un raccourci. moi, j'ai
mais vous dites que l'empereur intervient,
voilà,
quand même.
Non, moi, ce qui m'avait toujours choqué, c'est le jugement, parce que le jugement est accablant, et les trois derniers articles, au contraire, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, j'ai trouvé un document qui semblerait très fort dire que le frère de Gustave Flaubert, qui était médecin des hôpitaux de Rouen, avait pression pour qu'on l'acquitte. Parce qu'à l'époque, ce qui les gênait, le frère et Flaubert, c'était le scandale public.
Oui.
C'est une réaction de bourgeois.
Oui, donc l'empereur est intervenu.
On peut penser, comme vous le dites clairement,
on
peut dire
III.
Clairement peut-être que l'empereur est intervenu parce qu'il allait avoir des élections et que le candidat de l'Empire avait besoin du soutien des notables de Rouen.
Et surtout que Baudelaire, lui, est condamné pour six malheureux poèmes, des fleurs du mal, sulfureux les poèmes, mais quand même. Flaubert confie dans votre livre avoir, je cite, « culbuté Baudelaire », Régis Geoffrey. C'est vous qui le dites, hein.
J'ai essayé dans ce livre de me tenir à la méthode d'écriture de Baudelaire qui consiste à dire ce que j'ai écrit n'est pas contredit par les documents que nous avons. Donc ça, c'est assez... Je me suis lancé dans l'imaginaire au propos de Flaubert. Disons que c'est possible et j'ai trouvé cette rencontre très sympathique. C'est-à-dire que la rencontre entre Flaubert et Baudelaire, je trouve assez pleine de santé. Ces deux garçons qui sont jeunes, qui vont dans une réception où se trouve Victor Hugo. Il moque le vieillard qui n'a que 45 ans, mais enfin qui est un vieillard. Et j'ai trouvé que ça rendait finalement à la fois Flaubert et Baudelaire très sympathiques.
Mais ils ont vraiment...
Parce que souvent, les écrivains, sous prétexte qu'ils sont morts, on en fait des statues, voilà.
Bon, pas toujours, non. Mais ils ont vraiment, les deux. Ah, ça, Gustave
je
et
je n'en sais rien. Ils auraient peut-être été épouvantés de ce que j'ai dit.
Non, c'est honteux. Régis, vous inventez des choses, vous rendez compte?
Si vous voulez, les autres aussi inventent, mais simplement, moi, j'essaie d'aller dans le sens de la vérité de ce que je vois. C'est-à-dire, c'est pas un livre sur la vie sentimentale ou sexuelle de Flaubert, j'en parle comme tout le monde. Et surtout, on parle toujours de la vie sentimentale de Flaubert avec Louise Collet, parce que c'est vrai qu'il y a une liaison qui a duré des années, et c'est vrai qu'on a la correspondance. Simplement, quand on se penche sur la correspondance avec Louise Collet, on s'aperçoit que c'est un amour très mesuré.
Oui. Et surtout qu'il y a des amours avec des hommes qui sont moins mesurés, avec Alfred de Poitevin par exemple, le frère de Laure, Laure qui sera la mère de Maupassant, hein, parce que c'est la même époque. Il vivra une grande histoire d'amour avec Alfred, une grande histoire sexuelle aussi, c'est avec Alfred que j'ai découvert la volupté. Il partage même des femmes avec lui qui sont, dit-il, comme un matelas de chair entre deux.
C'est-à-dire que le Flaubert ne l'a jamais formulé de la sorte. Mmh. Mais ce qui est vrai, quand vous lisez les lettres qui restent, parce qu'elles ont été détruites par eux-mêmes, c'est même pas de l'amour, c'est une passion terrible, c'est une passion de toute une vie, parce que quand Alfred le Poitevin se marie, c'est une trahison pour Flaubert, et quand il meurt à l'âge de 32 ans, il est veuf à jamais. Alors, à la limite, je dirais qu'ils aient couché ou pas, peu importe, mais c'est une passion, c'est un amour total entre deux hommes.
Ouais. Allez, on va voir les libraires avec la France et la Belgique. On commence par qui, Régis Geoffrey, la France ou la Belgique?
La Belgique.
La Belgique, allons-y.
À
tout hasard, Nathalie Clairin.
Oui, Emmanuel. Eh bien, quelle meilleure façon y a-t-il de rendre hommage à Flaubert que de parler à sa place en soignant si bien son propre style? Ce n'est pas emprunter Flaubert, mais c'est, comme vous le dites, Régis Geoffrey, le renouveler après 200 ans. En montrant, par exemple, à quel point Emma Bovary ou Louise Collet ont beaucoup à dire sur ce qu'elles ont enduré et auraient beaucoup à dire aussi sur le 21e siècle. Alors moi, je me suis délectée de votre langage. Vous avez réussi là un coup de maître et je mets S à maître, bien évidemment, puisqu'il s'agit de Flaubert et vous-même.
Eh ben, mais donc Régis, vous n'avez jamais eu ça dans cette émission.
Merci, j'ai bien fait de choisir.
Bah, restez là, ne revenez plus. Hein.
Au revoir la France.
On continue avec la France. Allez, la Martinique, Anne-Rosine Calabro.
La Martinique.
Oui, alors moi j'ai trouvé ce livre extrêmement dense, audacieux et pour ne pas dire gonflé. Alors j'ai aimé votre interprétation de la vie de Flaubert parce que vous y avez laissé une place de choix à votre imagination, à votre liberté d'écrivain. Et j'ai trouvé que votre écriture ressemble à votre personnage. Elle est libre, elle est crue, elle est exubérante, mais toujours en quête du mot juste, de la construction qui va bien et de la métaphore la plus pertinente.
Voilà, Régis Geoffrey, vous racontez plein de choses. Hein. C'est vrai que Flaubert qui est dans son bain, qui fait le bilan sur sa vie, il y a plein d'anecdotes historiques aussi, des faits réels. Quand il part en Orient, par exemple, pour écrire Salammbô, avec son compagnon du moment, là, c'est avéré, hein, ça, il avoue avoir eu des amants dans des hammams, avec de jeunes garçons, avec des enfants même. Et vous lui faites dire dans votre livre, je cite, « Nous respections à peu près les valeurs en cours du temps de notre vie, mais comment aurions-nous pu nous soucier d'une morale qui alors n'existait pas, n'avait jamais existé auparavant dans l'histoire de l'humanité et dont les bases seraient jetées cas à cas des décennies après notre mort. »
C'est le grand problème dans lequel nous allons continuer à vivre. C'est un problème détaché de nous, mais chaque fois qu'on va se pencher sur le passé, on va trouver des criminels nouveaux. Au fur et à mesure que notre morale évoluera.
Faut-il vraiment avoir des codes moraux et des lois pour savoir qu'il ne faut pas coucher avec des enfants? Parce que là, c'est ce qu'il dit.
Bah, écoutez, Flaubert, c'est un peu exagéré, j'ai pas dit ça, il a dû coucher avec des mineurs. Non, mais les enfants, c'est plutôt, là où on en a une preuve, c'est avec Maxime Ducamp, c'est plutôt Maxime Ducamp.
Oui.
Mais ce qui est le plus sidérant, c'est que quand il raconte ça, il raconte pas ça comme s'il aimait, il raconte ça comme si c'était le hasard de la vie. Oui. Mais il y a aucune révolte autour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Flaubert a parlé à révolter, et je pense que quand ils en parlaient dans les dîners manies avec les Goncourt, avec qui que ce soit, il y avait pas du tout, Donc, on en est réduit à constater les faits, je suis d'accord avec vous. En plus, il faut être complètement malade, quoi. Enfin, je veux dire, pour que ça vous passe par l'esprit, donc c'est même pas une question de droit. On est abasourdi, mais c'est un abasourdissement avec lequel il va falloir vivre à partir du moment où on est en train, petit à petit, de juger les artistes au-delà des œuvres. Mais vous savez, toute la philosophie grecque, si vous allez par là, c'était tous des pédophiles.
Ouais.
Donc, c'est un sujet qui va être... voilà. Et moi, je le vois comme si c'était un objet. Vous savez, parce qu'on ne sait pas quoi en penser. Mmh. C'est un objet. Mmh. Et la pensée de Flaubert deux siècles après, je la donne comme un objet.
Ouais.
Voilà.
Alors, ce livre nous met dans la peau de Flaubert, Régis Jauffray, c'est ce que vous réussissez parfaitement, comme s'il s'adressait à vous. D'ailleurs, vous apparaissez à un moment, il vous cite, hein, faites plaisir, hein, Régis. Il évoque Internet aussi, où on peut tout trouver sur lui. Il semble dire aussi qu'il a raté sa vie, car il n'a pas fondé de famille, même s'il s'est occupé de sa nièce comme si c'était sa propre fille.
Ben, c'est-à-dire, c'est, vous voyez, les gens veulent un peu tout, donc il a fait tout pour ne pas avoir de famille, et en fait, c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il a dit à sa nièce, ah ben, j'aurais dû avoir des enfants. Mais même, on pourrait dire qu'il aurait pu en avoir au moment où il l'a dit. Mmh. Vous savez, dans la vie, je veux dire, on veut des choses contradictoires, mais je pense que Flaubert ne voulait pas d'enfants. Hein. Je veux dire, il a pu dire cela, mais je pense que c'était pas son désir profond, autrement il en aurait eu.
En tout cas, il s'est occupé de sa nièce, hein. Même s'il la marie de force à l'âge de 18 ans.
Marié de force, c'est moi qui le dis, sans aucune sympathie, avec l'œil d'aujourd'hui.
Ouais.
Mais je crois que je suis premier à le dire, parce qu'il y a 15 ans, on ne l'aurait pas dit.
Vous voyez
ce que je veux dire Parce que sa nièce est amoureuse de son professeur de dessin à 17 ans.
C'est ça.
On l'arrache à ce professeur de dessin, on lui donne un mari qui a 30 ans, et qu'elle veut d'autant moins qu'elle dit à sa grand-mère « je veux bien l'épouser, mais je ne veux pas coucher avec ». Voilà. Et le mari l'apprend la nuit de noces, donc il est pas ravi. Donc moi je dis un mariage forcé avec le vocabulaire d'aujourd'hui. Est-ce que je l'aurais dit en 1995? Je n'en sais rien. On aurait dit, à l'époque, on lui a trouvé un fiancé.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est possible. Dans ce récit, Régis, c'est un récit sur la liberté. Vous dénoncez, grâce à lui, la liberté d'écrire, entravée par les conventions et par les tribunaux, comme vous l'avez vécu lors de votre livre sur les dérapages de Dominique Strauss-Kahn au fameux Sofitel de New York. Vous avez été condamné pour diffamation. Vous l'évoquez dans une dernière partie nommée Chutier. Une partie complètement illisible, hein, Régis, écrit en tout petit caractère. Je ne sais pas ce qui vous a pris. De faire cette partie-là.
Puisque vous en parlez.
C'était
volontaire. Je voulais que ce soit un peu comme une crypte.
Oui,
un endroit
c'est ça.
Où il faille,
une crypte, c'est exactement ça.
Il faut y aller.
Oui. Et vous réglez les comptes, là, du coup.
Cela dit, c'est lisible comme des notes de bas de page.
Ouais, sauf que ça en fait 80.
Oui, c'est en dehors du roman. Il y a les passages qui, pour moi, sont les plus importants qui sont dedans. Mm-hmm. J'ai bien aimé, ça m'a amusé. Voilà. Et tout le monde ne trouve pas ça drôle. L'éditeur ne voulait pas, d'ailleurs, ça ne lui plaisait pas. Et maintenant, c'est lui qu'on accuse. Voilà. Mais regardez l'histoire Strauss-Kahn. Vous voyez, la réalité, c'est un procès qui a dû avoir lieu il y a 4 ou 5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, le même verdict serait rendu. Réponse.
Ça vous a pas plu, ça, hein, d'être condamné?
Vous savez, ça. Ouais. Si un jour ça.
Mais vous aviez chargé.
J'ai été condamné pour avoir fait mon travail.
Ouais.
Je suis quand même. C'est un peu normal de ne pas être satisfait de ce genre de choses.
Condamné pour diffamation, Régis, quand même.
Pour diffamation, oui, parce que j'ai atteint l'honneur de ministre Strauss-Kahn.
Et en appel aussi.
Et en appel aussi. Oui. Mais les gens peuvent se reporter au jugement et se demander si ce jugement passera pour l'éternité, pour le jugement des jugements.
Vous avez un petit côté Flaubert, finalement.
Oui, mais moi, j'ai pas eu frère qui a appuyé sur l'empereur pour être acquitté.
C'est ça. Bon, merci beaucoup, Régis Jauffray. Merci. Le dernier bain de Gustave Flaubert est paru aux éditions du Seuil. À bientôt, Régis. On termine avec un titre numéro 1 dans un pays membre de l'OIF. Aujourd'hui, on écoute Tsanka Uraganu, qui est numéro 1 en ce moment en Roumanie.
Je
extrait du nouveau titre de Tsanka Uraganu, numéro 1 en ce moment en Roumanie. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Charles de Silia et Florent Bujon à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Nicolas Julliard et Sophie Grécoucho en Suisse. René Mekils avec Valérie Le Put en Belgique. Jacqueline Castonguet, Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prog musicale. Le grand voyage francophone continue la semaine prochaine avec une sélection de livres pour votre week-end du 1er mai, entre autres. Bon week-end à tous. À bientôt. Salut.